Radio Okapi. Le journal Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation.
Rencontre hier à Entebbe en Ouganda entre Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Au centre des discussions, plusieurs points, dont les opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises en Ituri et au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. À suivre dans ce journal les propos des deux chefs d'État. Lancement officiel ce jeudi dans la zone de santé de Mbanzangungu au Congo central de l'introduction du vaccin antipaludéen dans la vaccination de routine en RDC. Le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme au Congo central va en parler. Docteur Nono Koka sera notre invité à la fin de ce journal. Le comité laïque de coordination de l'Église catholique dit non à la révision ou au changement de la constitution de la RDC. Le CLC appelle à une concertation préalable sur cette question des forces politiques et sociales. La société civile de Goma, quant à elle, trouve que c'est de la distraction. L'urgence pour le Congolais n'est pas la révision de la constitution, mais plutôt la sécurité, la santé, l'éducation et les infrastructures viables. Bonjour à tous. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni se sont entretenus en tête à tête hier mercredi au palais présidentiel d'Entebbe en Ouganda, annonce la présidence de la RDC. La rencontre entre les deux chefs d'État intervient deux semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs des armées congolaises FRDC et ougandaises UPDF sur les opérations conjointes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans l'est du pays. Le ministre des Infrastructures, le haut représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda, le chef d'État-major général des FRDC et d'autres membres du cabinet et du chef de l'État accompagnent le président Tshisekedi en Ouganda. Suivez tour à tour Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni dans cet extrait choisi par Jude Bilanda.
Je vous remercie pour les discussions que nous avons eues ce jour, des discussions très enrichissantes et très prometteuses, qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit
se
réalise.
Les trois points principaux sont
the bilateral security issues between Uganda and DRC.
Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC.
Secondly,
deuxièmement,
security of the region.
La sécurité de la région.
Thirdly,
troisièmement,
the issue of petroleum in Lake Albert.
La question du pétrole dans le lac Albert.
And then four,
quatrièmement,
the infrastructure.
L'infrastructure,
the Kasindi,
surtout
Kasindi Beni Tembo Road,
la route de Kasindi Tembo,
and eventually at some stage the Bunagana Rutshuru Goma Road.
Et pourquoi pas plus tard Bunagana Rutshuru cette route aussi.
Et puis, entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le régime commercial simplifié RECOS a été lancé officiellement hier au niveau des postes frontaliers de Kanvimvira et de Gatumba par le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku et la ministre burundaise du commerce Marie-Chantal Nijimbere. Ce régime commercial simplifié RECOS vient désormais simplifier les procédures de dédouanement et la réduction du coût des transactions commerciales, ce qui constitue, nous dirons, une bonne nouvelle pour les petits commerçants et les populations vivant au niveau de ces frontières. Les petits commerçants transfrontaliers pourront donc bénéficier des droits de douane. Le communiqué final signé par ces deux ministres note 66 produits concernés par ce régime commercial simplifié. On écoute tour à tour le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, et la ministre burundaise du commerce, Marie-Chantal Nijimbere, dans cet extrait proposé par Alain Hirong.
Cela traduit la volonté de nos deux chefs d'État, à savoir Evariste Ndayishimiye du Burundi et la volonté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc ces deux-là traduisent la volonté de l'intégration économique régionale. Cette Afrique ici ne peut se développer que s'il y a réellement une intégration économique régionale. Il a été constaté que entre les pays africains, il y a moins d'échanges commerciaux. Nous échangeons plus avec l'extérieur de l'Afrique qu'avec nous-mêmes. Et donc, à travers Comesa, on est en train de nous ramener au commerce intra-africain et inter-africain.
Ces tambourinaires et toutes les acclamations que vous avez entendues ici, c'est pour exprimer la gratitude aujourd'hui par rapport à l'annonce que vous venez de faire, qui vient de renforcer la coopération bilatérale qui existe entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. Comme vous l'avez bien dit dans votre discours, cette coopération doit être renforcée par des échanges commerciaux, la bonne cohabitation, le renforcement de la paix et de la sécurité.
Par la même occasion, le ministre du Commerce extérieur congolais a annoncé qu'il vient de suspendre uniquement pour le Burundi la mesure interdisant l'importation temporaire des quelques produits dont les bières et les boissons gazeuses. Au Nord Kivu, parlons de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évêque du diocèse catholique de Butembo, Beni, au Nord Kivu, demande aux autorités d'éclairer l'opinion sur la situation des groupes armés communément appelés Wazalendo, qui sont visibles dans plusieurs villes et localités de la province. Monseigneur Melchisedek Sikulipaluku s'exprime ainsi après des actes récurrents de torture, de meurtre et de vol impliquant des présumés membres des Wazalendo signalés à Beni, Butembo et Lubero. Il souligne que cette situation exacerbe l'insécurité dans la région. Monseigneur Sikulipaluku Melchisedek s'exprime au micro de nos confrères de Radio Moto Butembo.
Alors, c'est comme s'il y a Wazalendo et Wazalendo. Alors, il faut que tout cela soit bien clarifié, qu'il y en ait qui évitent dans des situations déjà troubles, qu'on ne continue pas à exacerber ces situations, qu'on s'occupe tous d'un même problème. Nous savons qu'il y a cette rébellion qui menace. Je crois que c'est cela qui devrait un peu nous unir davantage et chercher le voie et le moyen pour lutter, résister à cette rébellion. Et de la manière qu'il faut, et ne pas à créer encore dans les villes, dans les cités, à créer des tensions dont on n'aurait pas besoin et qui pourraient favoriser justement la croissance de l'insécurité et conduire les gens à vivre vraiment dans des situations inconfortables.
Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction des FARDC sur cette question. Et puis, notez qu'à Kinshasa, 3 personnes ont perdu la vie hier dans le crash d'un hélicoptère à l'aéroport militaire de Ndolo. Un mort était enregistré au moment du crash. 2 autres membres d'équipage sont décédés à l'hôpital HJ de Limete, selon l'agence congolaise de presse qui cite le général Faingama, commandant de la force terrestre des forces armées de la RDC. C'est ce jeudi que le gouvernement congolais lance officiellement l'introduction du vaccin antipaludéen dans la vaccination de routine en RDC. La cérémonie va se dérouler à partir de la zone de santé de Mbanzangungu dans la province de Congo central. Ce vaccin vient s'ajouter aux autres interventions existantes telles que la moustiquaire imprégnée d'insecticides pour combattre le paludisme et réduire sensiblement la mortalité et la morbidité liées à cette maladie. Docteur Nono Koka, coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme PNLP au Congo central, est au micro de Nana Plurich Mambou.
C'est un vaccin qu'on appelle le R21 matrice M. C'est un vaccin qui a été mis au point au niveau des Oxford et ce vaccin sera donné à chaque séance de vaccination pendant la routine. À partir de 6 mois, nous allons donner la première dose. Et à 7 mois, nous allons donner la deuxième dose. 8e mois, on va donner la 3e dose. Et l'enfant va revenir au 15e mois pour la 4e dose.
Parlons à présent à Kinshasa de l'ouverture officielle de l'année académique 2024-2025 depuis le lundi 28 octobre dernier par la ministre de l'ESU. Mais sur le terrain, dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire public, la nouvelle année n'est pas encore effective. On règle encore les reliquats de l'année académique passée. Par exemple, la défense des mémoires pour la 2e session continue dans certaines institutions universitaires. Dans d'autres, cette défense devra commencer le mois prochain. Etienne Lissou Soumbou s'est rendu à l'ISP Gombe. Voici son reportage.
« C'est sous ce cri de joie, saluant la défense des étudiants, que les institutions universitaires vivent ces derniers temps. La rentrée pour la nouvelle année académique n'est pas encore effective. Ces étudiants témoignent.
Pour nous, les anciens, la clôture a déjà été faite depuis le mois de septembre. Pour les nouveaux, on a déjà vu que non, ils ont déjà débuté avec les cours. On ne sait pas si c'est réellement avec les cours, mais on a déjà vu les nouveaux commencer.
Bon, les inscriptions continuent, vu qu'il y a des retardataires. Il y a des retardataires qui sont encore là, parce qu'il y a peut-être certains étudiants qui étaient venus hier, mais hier, on n'a pas eu à finir avec eux. On leur a ramené de venir aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes en train de voir d'ici la fin de la semaine, les inscriptions vont déjà clôturer.
Une candidate rencontrée dans l'enceinte de l'Institut supérieur pédagogique explique que, jusqu'à présent, les inscriptions continuent pour les retardataires.
Ensuite, on a rempli les dossiers, entre autres, ce qu'on nous a remis pour l'aptitude physique, l'attestation de bonne vie et mœurs, l'acte de naissance et autres. Et après, on nous a demandé de revenir lundi à 8h, sans précision.
La situation observée à l'ISP Gombe est la même dans d'autres universités publiques de la capitale kinoise.
La plateforme des confessions religieuses de la RDC appelle les Congolais au calme et à la cohésion nationale en cette période où l'actualité au pays est marquée par le débat sur le changement ou la révision de la Constitution. Se confiant hier à Radio Okapi, le représentant légal de l'Église de réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses indique qu'il est temps de réfléchir sur les enjeux autour de cette question en privilégiant la paix sociale, d'où il annonce la tenue dans le tout prochain jour d'un forum. Sur ce sujet, ce forum va réunir les experts en la matière, y compris l'Église catholique, afin de dégager une position commune du corps religieux. On écoute l'archevêque Ejiba Yamapia, Évariste, joint par Grâce Hamzati.
C'est un débat national. Nous devons voir en quoi ça profite à la nation, en quoi ça peut nuire à la nation. Nous disons, les sociologues, dites-nous notre environnement. Est-ce que la situation est-elle possible? Les juristes, donc les constitutionnalistes, nous leur disons en quoi cela peut-il être mauvais. Et nous irons chez les politologues pour dire, vous qui avez les thermomètres politiques, est-ce que c'est le moment? Donc, toutes ces intelligences-là réunies, ça nous permet maintenant, nous, comme chefs spirituels, nous voyons la température spirituelle de la nation et afin, nous nous prononçons. Le message que nous donnons, un, aux politiques, c'est de dire, nous devons dépassionner les débats. Au peuple congolais, ne nous agitons pas, ne parlons pas comme certains parlent de morts qui arriveraient. Ne soyons pas les prophètes de malheur, mais soyons les prophètes de bonheur.
De son côté, le comité laïque de coordination catholique monte au créneau pour s'opposer à la révision ou au changement de la constitution de la RDC. Dans un communiqué signé le mardi par les professeurs Justin Okana, Isidore Ndaiwel et Franklin Mbokolo, le CLC appelle à une concertation préalable de forces politiques et sociales sur le débat de l'heure relatif à la révision ou au changement de la constitution. Des détails avec Askin Zigbia Tayoro.
Dans son communiqué, le comité laïque de coordination considère qu'il est effectivement inopportun, dans les circonstances actuelles, d'amorcer un débat public sur la révision constitutionnelle ou la production d'une nouvelle. Pour cette organisation catholique, on ne peut pas ouvrir un front constitutionnel sur des fronts militaires, humanitaires et sociaux. Le faire ne pourrait que conduire à une fragilisation dangereuse de la société et de l'ensemble des structures de l'État. Sans oublier que les blessures électorales ne sont pas totalement cicatrisé. D'après le membre du CLC, l'exaspération que ce projet suscite semble être pour l'essentiel le rejet d'une imposition, mais surtout la crainte qu'il ne serve d'alibi à la transformation du second mandat du président à un deuxième mandat appelé à se pérenniser. Dans ce cas, le CLC en appelle une fois de plus à un dialogue de forces politiques et sociales avec des objectifs clairement définis en tenant compte de paramètres du moment et de la nécessité d'une pédagogie conséquente. Cependant, selon eux, la société n'est pas condamnée à la léthargie. Ils estiment que la mise en place d'une nouvelle constitution ou la révision de celle qui existe, l'une ou l'autre démarche, ne pourrait être que son émanation.
Révision ou changement de la constitution à RDC. La société civile de Goma, elle, qualifie de distraction ce débat. Pour le président de la société civile Force Vive de Goma, l'urgence à l'instant pour le peuple congolais se trouve dans la sécurité, la santé, l'éducation et les infrastructures viables. On écoute Marion Gavo Kambale dans cet extrait choisi par Chris Mukande.
Pendant que la guerre déchire les populations dans l'est de la RDC, pendant que le chômage, la pauvreté est en train de rendre plus vulnérables presque toutes les couches de la population congolaise, les politiques s'adonnent à réviser la constitution. Certes, ils cherchent à ouvrir des voies pour, n'est-ce pas, se partager le pouvoir. Nous pensons que, quelle que soit la révisitation de certains articles de la constitution qui ne sont pas verrouillés ou verrouillés, la réponse repose sur le sérieux, sur le pragmatisme et sur la volonté des acteurs politiques à vouloir avoir des plans cohérents pour la sortie et l'émergence. Nous devons aujourd'hui nous attaquer aux grandes questions. C'est la sécurité, c'est la réduction des chômages, c'est la production en vivres, c'est la bonne gestion des ressources naturelles et ceux-là affectés aux secteurs comme les infrastructures routières, l'éducation, la santé en lieu et place de perdre du temps sur la révisitation de certaines clauses ou articles de la Constitution.
Actualité internationale.
Un ex-médecin rwandais, Eugène Rwamucho, a été condamné hier par la Cour d'assises de Paris à 27 ans de réclusion criminelle, notamment pour complicité dans le génocide des Tutsis en 1994. À 65 ans, il a été reconnu coupable de complicité de génocide et participation à une entente en vue de la préparation de génocide, complicité de crimes contre l'humanité et participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes. Eugène Rwamucho a, en revanche, été acquitté des accusations de génocide et des crimes contre l'humanité.
L'invité.
C'est à partir de la zone de santé de Mbanzangungu au Congo central que la RDC va introduire officiellement ce jeudi la vaccination anti-paludéen dans la vaccination de routine. Le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme et PNLP au Congo central est notre invité, Dr Nono Koka, s'entretient avec Nana Plurich-Mambou.
Dr Nono Koka, bonjour. Que peut-on retenir au sujet de ces vaccins?
C'est un vaccin qu'on appelle les R21 matrice M. C'est un vaccin qui a été mis au point au niveau des Oxford et ce vaccin sera donné à chaque séance de vaccination pendant la routine. À partir de 6 mois, nous allons donner la première dose. Et à 7 mois, nous allons donner la deuxième dose. 8e mois, on va donner la troisième dose et l'enfant va revenir au 15e mois pour la quatrième dose. Nous allons donner ces vaccins en injection chez les enfants de moins de 10 ans.
À travers l'induction du vaccin contre le paludisme, le PNLP poursuit quel objectif?
Les objectifs ici, nous voulons à ce jour, comme nous le savons très bien, le paludisme reste la maladie qui tue plus dans ces pays, mais où il y a aussi beaucoup de cas avec des formes graves. Et la RDC reste le deuxième pays au monde. Et donc, ces vaccins viennent contribuer dans le cadre des préventions pour réduire sensiblement le nombre d'épisodes que l'enfant peut faire en termes de cas, mais aussi éviter que l'enfant puisse faire des formes graves du paludisme, mais aussi ça va nous amener à réduire sensiblement les cas de décès dits au paludisme.
Maintenant que nous avons les vaccins contre le paludisme, on peut baisser la garde face au paludisme?
Je dirais non, 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 nous devons continuer à dormir sous moustiquaire, nous devons continuer à prévenir les désherbages ou la propriété dans nos parcelles, nous devons continuer les autres interventions telles que la chimio-prévention du paludisme pérenne, les pharmaciens doivent continuer à prendre leur SP ou Fancidar, et donc nous devons continuer tout ce qui est intervention de prévention, et là-dedans, les vaccins viennent s'ajouter pour nous aider à lutter efficacement contre le paludisme.
Le paludisme ne concerne pas que les enfants de moins de 10 ans.
qui est actuellement votre cible principale. Mais pourquoi n'avez-vous choisi que cette tranche d'âge-là?
Oui, vous avez raison. Les vaccins peuvent être donnés même chez les adultes, mais la situation actuelle par rapport à ces vaccins, il faut comprendre d'abord les enfants de moins de 2 ans ou les enfants de moins de 5 ans. C'est vraiment la tranche d'âge où on trouve plus de formes graves. Déjà, les enfants de moins de 5 ans constituent pratiquement les 49% des cas de paludisme dans notre pays, auprès de 50%. Et donc, cette tranche d'âge, ils évoluent vers les formes graves rapidement. Et c'est là où on trouve plus de décès. Et près de 70% des décès dits au paludisme, ça provient chez les enfants de moins de 5 ans, plus précisément chez les enfants de moins de 2 ans.
Pourquoi avoir choisi la province du Congo central pour lancer ces vaccins?
Les raisons est que nous introduisons au Congo central, c'est parce que le Congo central, c'est parmi les provinces avec le nombre élevé de cas, mais aussi avec impact élevé, autrement appelé HBHI. Et donc, c'est parmi les 10 provinces de la RDC avec des cas élevés, avec impact élevé. Et vous allez comprendre que le Congo central, on a beaucoup de décès dits au paludisme, mais ça représente à travers le pays près de 9%. Et donc c'est énorme sur les 26 provinces. Et donc, en dehors de ces mortalités, mobilité élevée, il y a aussi d'autres raisons. Le Congo central est tenté d'implémenter plusieurs interventions. Il faut dire que le Congo central a distribué la moustiquaire en décembre 2023, des nouvelles moustiquaires avec des insecticides qu'on appelle les PBO et les IGD. Ce sont des insecticides de deuxième génération. En dehors de ça, nous avons d'autres interventions telles que la chimio-prévention du paludisme pérenne chez les nourrissons. Et donc, ce sont des interventions qu'on est en train d'implémenter. Et nous voulons voir dans l'arsenal de toutes ces interventions de prévention, essayer de mettre ça tous ensemble pour que nous puissions arriver à réduire ou au finish éliminer le paludisme au Congo central.
Le message, c'est quoi que vous pouvez adresser à la population?
Le message, nous demandons à toute personne qui a des enfants à la maison de moins de 2 ans, nous leur demandons d'amener les enfants à la vaccination des routines comme on donne pour d'autres vaccins. Ça va permettre à ces enfants de ne pas faire des paludismes en répétition, mais aussi de ne pas faire des formes graves du paludisme et ça va nous permettre à réduire sensiblement le décès dit au paludisme chez les enfants de moins de 2 ans.
Docteur Nonokoka, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les responsables du programme national de lutte contre le paludisme. Je vous remercie.
Ok, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un journal mis en onde par Debs et Vita, coordonné par Jude Bilanda et présenté par Noéla Luzitu Kabambi. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi.